L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Dieu est bon. Amen. Alors ce matin, on va poursuivre dans l'enseignement « L'autorité du croyant ». On a commencé la semaine passée. Et la semaine passée, on a donné vraiment beaucoup de matériel. On a donné beaucoup de versets pour vous établir vraiment que vous puissiez avoir une fondation sûre et certaine et que votre foi soit non fondée sur mes paroles, mais sur la parole de Dieu. Et on a passé beaucoup de temps. Et là, cette semaine, par la grâce de Dieu, je vais donner moins de versets et ça va être plus léger. C'est ça que j'ai dit à ma femme. J'ai dit, ça va être plus léger, là. OK? Mais je peux pas vous promettre rien. Je peux rien vous promettre. Mais je vais essayer. Et je vais essayer de parler lentement aussi. Je vais essayer de parler lentement. Mais il faut prier pour moi parce que, vous voyez, c'est un défi des fois. Alors, aujourd'hui, on poursuit. Et comme j'ai dit la semaine passée, l'autorité du croyant, c'est un des messages les plus importants qu'on peut avoir, qu'on peut entendre. Si vous n'étiez pas là, je veux vous encourager à aller sur le site web pour écouter l'enseignement « L'autorité du croyant 1 ». C'est la fondation pour qu'est-ce que j'enseigne. Si vous comprenez pas ça, vous manquez un méchant gros morceau dans votre vie chrétienne. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire « Amen » C'est vraiment vrai. Si on ne comprend pas ça, et malheureusement, dans le corps de Christ au Québec, je pourrais dire que la majorité n'entend jamais parler de l'autorité du croyant. Et ça fait en sorte qu'il nous manque tellement un gros morceau à notre vie chrétienne qu'on est démuni de puissance, démuni de foi, parce que même si Dieu a donné des promesses, on a toujours en arrière, dans notre tête, on a toutes sortes d'explications pourquoi toutes ces promesses-là ne sont pas pour nous. Finalement, on passe à côté d'une destinée glorieuse que Dieu en réserve pour ses enfants. Alors, je veux vous encourager à aller écouter ce message-là, c'est super important. Parce qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas le reprêcher. Je ne pourrais pas le reprêcher parce que ça serait long. Hein? Puis on n'a pas deux heures devant nous. Alors aujourd'hui, on va poursuivre dans l'autorité du croyant, mais avant d'aller plus loin, on va prier. Amen. Père éternel, je veux te remercier encore une fois pour ta parole. Et je veux te remercier également, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui nous enseigne toute la vérité, qui nous conduit, Seigneur Dieu, dans ta vérité, dans ta lumière. Et je te remercie aujourd'hui que les pensées sont rendues captives à ton obéissance. Seigneur, aujourd'hui, on prend la décision, on est engagé spirituellement à recevoir de toi. Seigneur, je cède ma bouche, Seigneur. Remplis ma bouche de tes paroles, Seigneur Dieu. Que les captifs soient libérés aujourd'hui, au nom de Jésus, que des vies soient transformées, que les chrétiens qui ont besoin d'entrer dans une nouvelle saison, qu'ils puissent aujourd'hui entrer dans cette nouvelle saison, au nom de Jésus. Amen. Amen. En fait, tout le monde a besoin d'entrer dans une nouvelle saison parce que Dieu veut faire des nouvelles choses dans nos vies. Amen. Alors ce matin, que je vais faire, je vais vous donner quelques passages de la semaine passée pour vous donner un fondement de base. Ok? On va aller ensemble dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1 et le verset 20 à 23. On a parlé certainement de la crucifixion du Seigneur Jésus. On a compris que le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour racheter l'être humain de la malédiction. On a parlé de ça, Galates 3, verset 13. Et on a compris que Dieu, quand il avait créé Adam et Ève, il avait créé Adam avec l'autorité de dominer sur la terre. Genèse 1, verset 26. Donc, il avait donné cette autorité-là, mais là, par son choix personnel, Adam a décidé d'être rebelle contre Dieu et puis il a cédé son autorité à Satan, qui est devenu le dieu de ce monde. On se rappelle de ça, 2 Corinthiens 4, 4. Donc, il est devenu le dieu de ce monde et c'est ça qui explique toute l'horreur qu'on peut voir dans le monde. Quand on voit la destruction, la guerre, toutes ces choses-là, et quand les gens se posent la question, mais pourquoi il y a ces choses-là qui existent dans le monde? Pourquoi Dieu, si Dieu existe, pourquoi ces choses-là existent? Bien, c'est parce que c'est le diable qui fait ces choses-là. C'est les êtres humains qui sont animés par la colère et qui sont animés par des mauvais esprits qui vont agir et tuer leur prochain. Ce n'est pas de Dieu. Amen? Donc, on a vu ça, c'est la destruction, la guerre, toutes les choses, les atrocités dans le monde. Dieu n'est pas à l'origine de ces choses-là, mais ces choses-là viennent de l'ennemi. Donc ça, c'était une des choses qu'on a expliqué la semaine passée. Par la suite, Dieu, dans son amour, n'a pas dit « Ok, je vais laisser l'être humain comme ça, dans plein de problèmes et sous la domination de Satan. » Parce qu'on a compris, Adam avait cédé cette autorité, cette dominion, il avait cédé à Satan. Mais Jésus est venu dans la personne, ok, sur cette terre. Il est venu en personne et puis il est venu vivre la vie parfaite pour recevoir par la suite notre punition que l'on méritait. Par la suite, le Seigneur Jésus est allé mourir sur la croix et on comprend par là qu'il a tout pleinement payé pour notre dette de péché et les péchés du monde ont été sur lui. Et cet homme innocent, Jésus qui n'avait jamais commis de péché, il a payé pleinement le prix et a racheté cette autorité-là. Il est ressuscité d'entre les morts et par la suite, après sa résurrection, on sait que cette autorité a été remise cette fois-là à son Église. Christ est la tête de l'Église, nous sommes le corps de Christ. Amen. Et une tête a besoin du corps pour opérer, n'est-ce pas? Combien d'entre vous, ce matin, vous avez pensé de laisser votre tête à la maison? Ou de juste venir votre tête tout seul? Non, vous avez besoin de deux jambes pour vous rendre ici, n'est-ce pas? C'est la même chose, Dieu, il opère à travers son corps. Donc, le corps de Christ et les mains du corps de Christ, ok, sont vraiment les instruments que le Seigneur va utiliser pour rejoindre les gens perdus. Donc, c'est pour ça que Dieu nous dit, allez par tout le monde et prêchez, priez pour les malades, faites ceci, faites cela, c'est toujours la responsabilité, revient à son Église. Et c'est ça qu'on a vu la semaine passée pendant une heure. Donc ça, je vous donne ça en survol. Et maintenant, je vais vous lire quelques versets juste pour appuyer les choses que j'ai expliquées là. Donc, dans Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 23, ça dit, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, si on voit que le Seigneur Jésus, quand il a payé la dette du péché, il a payé pleinement et puis il a repris toute l'autorité que l'être humain avait perdue. Amen? Vous avez compris ça? Dans Matthieu 28, 18, Jésus a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et le mot « pouvoir », c'est le mot dans le grec « exousia » et qui veut dire « autorité ». Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et par la suite, nous voyons dans Éphésiens 3, verset 10, dans la Bible du Semeur, par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Voyez, remarquez ici, c'est par son Église que toutes les puissances peuvent être exposées à la puissance de Dieu. Et dans Colossiens, verset 13, ça dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quand on lit ce texte-là, on voit dans le grec, ça dit Dieu nous a délivrés de l'autorité ou la juridiction des ténèbres. Remarquez, pour l'enfant de Dieu, nous ne sommes plus gouvernés ou sous la domination de ce gouvernement des ténèbres. Nous sommes d'une autre classe, c'est ça qu'on a dit la semaine passée. Nous sommes d'une autre classe spirituelle et c'est pour ça que nous marchons dans le royaume de Dieu, même si nous avons les deux pieds sur la terre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Donc, on a vu ça, ça faisait la différence. Mais après tout ça, on a compris également, non seulement ce que Jésus a racheté cette autorité-là, mais par la suite, il nous a donné de l'autorité pour agir en son nom. Dans Marc 16, verset 15, il nous a donné cette responsabilité. Il dit, puis il leur dit, en parlant aux 12, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » OK? Donc, immédiatement, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, c'est ce qu'on a vu la semaine passée, allez par tout le monde. Il nous a donné une responsabilité. Nous, l'Église de Jésus-Christ, nous devons répondre à ce mandat-là d'aller et de prêcher la bonne nouvelle. Remarquez le message que nous avons à prêcher, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Quand c'est bon, c'est merveilleux, ça réjouit notre cœur. Quand quelqu'un est déprimé et on arrive et on dit, le Seigneur est ta réponse, le Seigneur Jésus t'aime, il y a une provision pour toi, c'est une bonne nouvelle. Amen? C'est une bonne nouvelle. Et c'est ça que Dieu nous appelle à faire. Et vous savez, des fois, quand on va vraiment prêcher la plénitude de l'Évangile et cette bonne nouvelle, quand on ne limite pas le salut simplement au pardon des péchés, mais quand on comprend vraiment que le salut, c'est d'être délivré de toutes les œuvres de l'ennemi, d'être délivré totalement de ce royaume de ténèbres-là et que nous entrons dans ce nouveau royaume de Dieu, quand nous comprenons que nous sommes dans cet héritage, il y a des gens qui vont entendre le message, il y en a peut-être ici dans cette place, vous entendez le message qu'il y a une bonne nouvelle pour vous, et il y a une catégorie qui va se démarquer dans l'Église. Il y a une catégorie de gens qui peuvent être assis dans la même salle, recevoir le même message et dire « Oui, Seigneur, c'est pour moi. Oui, Seigneur, je reçois ce message-là, ça descend dans mon cœur et ça fait partie de qui je suis. » Il y en a d'autres personnes qui vont entendre la bonne nouvelle et puis pour eux, ils sont assis là, pas pour recevoir, mais sont là juste en tant que spectateurs et qui vont rouler les yeux. Avez-vous déjà entendu des gens ou des conversations entre chrétiens? OK, on parle de l'héritage du croyant et il y a des gens qui vont juste faire comme le festival du roulage des yeux. Connaissez ça, des gens comme ça? Vous leur dites, ben voici la parole de Dieu pour ta solution. Puis là, c'est comme, ça roule les yeux. Le festival du roulage des yeux au Québec, là, c'est un festival très populaire. Je vais vous dire, savez-vous, là, vous vous êtes déplacé de chez vous. OK, vous auriez pu rester dans votre lit au chaud, là. Vous auriez pu prendre un chocolat chaud. En passant, vous pouvez faire ça avant de venir aussi. Là. Mais admettons, là, vous avez dit, moi, je reste chez nous. Aujourd'hui, j'ai le goût de relaxer, puis vraiment, je veux vivre ça mollo. OK? Vous restez chez vous. Et là, vous êtes chez vous, vous passez à côté d'une bénédiction, c'est sûr. Mais là, admettons, vous êtes là aujourd'hui. Vous avez décidé, moi, ce matin, je m'en vais recevoir de Dieu. Mais là, tant qu'à être ici, tant qu'à avoir pris votre auto à moins 20 aujourd'hui, puis vous rendre ici, qu'est-ce que ça vous donnerait de venir puis juste rouler vos yeux? Savez-vous, moi, je perds rien là-dedans. C'est vrai? Si vous roulez vos yeux, là, si vous autres, vous êtes des rouleurs de yeux puis vous passez à côté des choses. Non, mais c'est vrai. Tant qu'à venir à l'Église, je suis aussi bien d'être là pour recevoir. Puis dire, si Dieu me donne une promesse, au lieu de rouler mes yeux puis dire, bon, ben là, c'est pour les autres, ben, ça marche pas vraiment. Au lieu d'être comme ça, on peut dire, c'est écrit, je le reçois. Amen. Moi, je veux faire partie de la compagnie des gens qui sont assez simples d'esprit, qui vont croire Dieu. Moi, je suis un simple d'esprit. Ça paraît, hein? Je m'en ai dit, ça paraît pas, mais ça paraît. Moi, je suis assez simple. Je suis assez simple que je crois ce que Dieu dit. Je le crois. Puis, ouais, mais je crois Dieu. Bon, l'une des choses... OK, il nous a donné l'autorité, mais là, on est appelé à gérer aussi l'autorité. Dans Éphésiens 4, verset 27, ça dit, ne donnez pas accès au diable. Parce que Dieu nous a remis l'autorité à son Église, mais c'est certain que si son Église ouvre les portes à l'ennemi, bien, c'est plus la domination de Dieu ou le gouvernement de Dieu qui va vraiment être relâché à travers nos vies, mais c'est plutôt le règne de l'ennemi. Il y a des gens qui veulent tellement accueillir les inconvertis qu'ils deviennent comme les inconvertis. Savez-vous ça? C'est comme, ah, ben, on veut être accepté de tout le monde, on veut être cool, sauf que, on va faire ci, on va faire ça, on va commencer à faire des compromis. Puis là, finalement, l'Église est remplie d'inconvertis, puis il n'y a pas un chat qui connaît Dieu. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Il y a des gens, s'il y a des gens qui sont offensés en venant ici et entendant des choses, c'est soit qu'ils vont changer ou ils vont partir, mais l'Église changera pas pour devenir comme le monde. OK? Donc, on veut pas se laisser influencer par le monde. C'est le monde qui va changer en venant ici. Amen. Donc, on ne donne pas accès au diable. Et dans le français courant, ça dit, ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Ne donnez pas l'occasion au diable de vous dominer. Ça veut dire, on a la responsabilité d'empêcher le diable de nous dominer dans nos vies. La domination de l'ennemi, vous pourrez lire dans Deutéronome 28, la malédiction. Là-dedans, il y a la liste. Vous voulez voir comment être maudit, là? Méditez sur Deutéronome 28. Deuxième partie, là. Vous allez voir comment, je veux vraiment être maudit. Voici ce que vous devez faire. De l'autre côté, la première partie de Deutéronome 28, ça nous parle comment être béni. Moi, j'ai choisi la bénédiction. Je trouve ça plus cool, plus fun. Mais ça, c'est votre choix toujours. OK? Absolument. Mais là, ça me dit, ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Une des façons que l'ennemi va dominer les gens dans les églises, c'est pas nécessairement par les gros péchés. Une des façons qu'il va le faire, c'est simplement par l'incrédulité. C'est comme ça. On entend la parole de Dieu, et là, comme je disais, on roule les yeux. On ne croit pas. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait des églises remplies de gens religieux qui ne croient pas Dieu. Puis c'est-tu fatigant? Ça, c'est juste des religieux qui sont là pour nous siphonner le jus de la vie, puis nous drainer. C'est vrai. Mais regardez, moi là, si je vais être un chrétien, là, je vais être un chrétien qui croit Dieu. Je vais être un croyant qui croit. Il y a trop de croyants qui ne croient pas, sont comme le monde, ils croient rien. On leur dit, moi je me souviens, il y a des années, j'avais reçu une parole de Dieu pour ma vie, qui a changé ma vie à cette époque-là. J'ai partagé ça avec une sœur dans le Seigneur, puis elle m'a regardé, puis elle a dit, tu crois que Dieu te parle vraiment? J'étais comme, j'étais sous un choc, j'étais comme, une croyante qui ne croit pas. Puis là, j'ai dit, ben tu crois-tu dans telle chose? Non. Des croyants qui ne croient pas, il y en a plein. Mais ici, là, en passant, c'est une église où on croit Dieu. Ça donne que c'est comme ça que ça marche ici. Donc, si on est des extrémistes parce qu'on croit la Bible, merci de nous donner cette badge d'honneur-là. On est extrêmement convaincus que Dieu, il est plus intelligent que nous. Puis, qu'est-ce que Dieu dit, c'est vrai. Amen. Donc, on ne donne pas d'occasion à Satan dans cette église à nous dominer par la tradition, par l'incrédulité. Si vous ne croyez pas Dieu, ben restez dans votre incrédulité, mais venez pas tout saler la foi des autres. Amen. Amen. C'est ça qu'on veut. On veut croire Dieu. Et dans 1 Pierre 5,8, ça dit « Soyez sobres ». Là, Dieu nous dit, c'est à vous, là. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » Ça veut dire que, comme on entend la parole de Dieu, comme on entend des enseignements sur l'autorité du croyant, l'ennemi va essayer de venir, pendant que je prêche, pour essayer de voler cette chose-là dans votre tête, dans votre esprit, pour vous dire, ben, c'est pas pour toi, ça peut pas marcher. Mais là, la Bible dit, résistez-lui ferme. Okay? Résistez-lui avec une foi ferme. Ça dit dans la parole de Dieu. Puis j'ai fait une petite recherche, juste voir qu'est-ce que ça veut dire exactement, cette foi ferme-là. Et on voit dans le grec, c'est le mot pistis qui veut dire par une conviction. Résistez-lui avec une conviction. Vous êtes convaincu que Dieu dit vrai. Amen. Donc, faut être convaincu. Donc, la semaine passée, c'est ça qu'on vient de faire un survol. On a tout vu. L'autorité a été remise à l'Église. Et puis, par la suite, là, on doit comprendre. C'est bien beau d'avoir de l'autorité et que oui, elle a été rachetée pour nous. Mais là, il faut savoir comment exercer cette autorité-là. Amen. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur la question comment exercer cette autorité que le Seigneur Jésus nous a donnée. Alors, je vais vous inviter à tourner dans Luc 18, verset 8. Je peux vous dire, dans les jours dans lesquels nous vivons, les gens, on a beaucoup de gens dans nos églises, dans le monde, qui ne croient plus dans la parole de Dieu, qui ne croient plus dans les promesses de Dieu. Et je crois que dans le temps de la fin, on va voir ça de plus en plus. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire attention, on doit veiller, comme on vient de lire, veiller sur nos pensées, veiller sur nos cœurs, veiller sur nos oreilles aussi, protéger nos oreilles, parce qu'on ne veut pas se remplir d'incrédulité, on ne veut pas entendre des messages qui vont nous dire pourquoi Dieu ne peut pas nous aider dans nos situations. Okay? Et dans Luc 18, verset 8, c'est dit, « Quand le Fils de l'homme viendra, en parlant du Seigneur Jésus, trouvera-t-il de la foi sur la terre? » Trouvera-t-il de la foi sur la terre? Et je sais que ça parle encore plus loin dans les jours à venir. Mais moi, je peux vous dire que dans ma vie personnelle, il va trouver la foi en moi. Amen. Et vous pouvez prendre cette décision-là aujourd'hui et dire, moi, je veux être une personne de foi. L'autorité que le Seigneur nous a donnée, ok, cette autorité-là, elle est exercée par la parole de foi. Par la parole de foi. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Je vous invite à tourner dans Romains chapitre 10 et le verset 8. Romains chapitre 10 et le verset 8. Aujourd'hui, on va parler de la foi, on va parler de la parole de foi que le Seigneur nous a donnée. Ce n'est pas un mouvement d'église. Oui, dans les années 70, je peux vous expliquer un petit peu d'histoire. Il y a eu des gens, on peut dire pentecôtisants, dans le milieu pentecôtiste, okay, qui ont eu soif de retourner à la parole de Dieu d'une façon nouvelle. Dans le monde chrétien évangélique, souvent, les commentaires que j'ai entendus des croyants, on entend dire, bien, chez les baptistes, eux, ils ont vraiment là l'enseignement, ils sont bons dans l'enseignement. Chez les pentecôtistes, beaucoup d'émotions. Avez-vous déjà entendu ça, quelqu'un? Là-bas, c'est les émotions, chez les baptistes, c'est vraiment la parole. Et puis, mais tout ça pour vous dire, moi, je donne pas raison à ni un ni l'autre, là, parce que même si on a la parole, c'est pas bon, si l'enseignement est pas bon, ça donne pas grand-chose non plus. Et puis, de l'autre côté, si on a juste des émotions, c'est pas bon non plus. Alors, qu'est-ce qu'on veut? C'est être dans la parole et dans l'esprit. Et dans les années 70, il y a eu, même avant 50, 60, 70, il y a eu un mouvement de gens qui avaient vécu l'expérience de la Pentecôte, qui avaient reçu une plénitude dans l'Esprit de Dieu, mais en même temps, c'était des gens qui aimaient la parole de Dieu. Puis on dit, nous, on veut être ancré dans la parole de Dieu. On veut pas être guidé par les émotions. Alors, si on peut nous identifier dans quel courant d'église qu'on est, il y a des gens, des fois, qui nous disent, êtes-vous pentecôtiste, êtes-vous baptiste, vous êtes quoi, vous autres? On est des chrétiens, OK? Mais vous faire comprendre quand même, des fois, juste pour vous aider à vous établir, vous identifier, on peut dire, on est des gens d'une parole de foi, où nous prêchons la foi et où on veut l'Esprit de Dieu, oui, dans l'équilibre, l'Esprit de Dieu, absolument, mais toujours que toutes les choses qu'on reçoit, qu'elles soient vraiment ancrées dans la parole de Dieu. Faut que ça soit biblique. C'est ça. Vous êtes dans une église où on est ouvert aux choses de l'esprit et on est fermé aux choses de la chair. Des bizarreries, on n'en veut pas. Amen? Des bizarreries, j'en veux pas des bizarreries. Je veux des, ben, s'il y a des choses vraiment de l'esprit de Dieu, puis ça peut s'adonner que c'est bizarre peut-être pour nos yeux naturels, ben, il va y avoir un fruit extraordinaire qui va se passer par la suite. Donc, on est ouvert, on n'est pas fermé, mais on veut les choses vraiment dans l'Esprit de Dieu et biblique. Comprenez-vous? Donc, une église de parole de foi, où la parole de foi est relâchée et crue. Et ça s'adonne que c'est ça que l'apôtre Paul prêchait. Dans Romains chapitre 10 et le verset 8, « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Si l'apôtre Paul a prêché la parole de foi, bien moi aussi je suis capable de faire pareil. Amen. Je trouve que c'est une bonne personne, une bonne référence. Je vais le relire. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Amen. Et là, par la suite, dans Romains 10, 17, ça dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si la source de notre foi, c'est ce que nous allons entendre. Si nous voulons entendre la parole de Dieu qui va changer nos vies, qui va nous remplir pour qu'on puisse vraiment croire pour l'impossible dans nos vies, bien, on doit être connecté à la source de Dieu. Et c'est la parole qui va changer nos vies. C'est la parole de Dieu qui va nous bâtir la foi pour croire dans le surnaturel. Cependant, vous pouvez passer votre semaine à écouter des livres, ou à lire des livres plutôt, ou d'écouter des choses, même sur la science, des choses peut-être qui sont contraire aux Écritures, mais si vous remplissez toujours des choses qui sont contraires aux Écritures, votre foi va vraiment être développée pour ces choses-là. Mais si vous vous exposez à la parole de Dieu, votre foi va être bâtie pour croire pour les choses que vous avez besoin dans vos vies, dans la foi du Seigneur. Et dans Hébreux 11, verset 6, un autre texte concernant la foi, ça dit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable ». Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si vous voulez marcher dans l'autorité que le Seigneur Jésus nous a donnée, vous devez premièrement être une personne de foi. C'est pas compliqué, hein, c'est pas trop compliqué, mais vous devez être une personne de foi. Puis j'aime vraiment ce texte-là parce que ça dit, bon, il est impossible de lui être agréable. Si vous êtes un chrétien puis vous êtes toujours dans le doute, Dieu n'est pas content avec vous. Pour lui plaire, vous devez être une personne de foi. Mais remarquez, ça dit, bon, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut, dites, il faut. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Savez-vous, ça, c'est notre problème. On a trop de personnes qui croient que Dieu existe. Dieu est capable de faire des choses. Dieu a fait des choses dans le passé. Mais il nous manque la deuxième portion de ce verset-là. On croit que Dieu existe, puis ça vient de s'éteindre-là. Dieu existe. Il existait dans le passé. Il faisait des grandes choses dans le passé. Mais dans ma vie, il ne fait rien. Okay? Parce que ma foi n'est pas relâchée dans le quotidien. C'est-à-dire, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si vous cherchez Dieu, il va vous rémunérer. Hein, c'est merveilleux. Il va vous bénir en retour. Ça, c'est là où on a vraiment, où on a vécu des échecs. Donc, qu'est-ce que le Seigneur nous appelle à faire? C'est vraiment être des personnes de foi. Et on va voir ensemble dans Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Il est écrit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans la Bible du Sommeur, ça dit, « Être sûr » des réalités qu'on ne voit pas. Ça, c'est une personne de foi. Si Dieu le dit, je suis sûr. Dans français courant, ça dit être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Et dans parole de vie, ça dit être persuadé. que si vous avez de la misère à comprendre un verset, je vous l'ai donné en quatre places. Là. Correct? C'est correct? Dans le pratico-pratique, comment est-ce qu'on vit ça? Je peux vous donner un exemple. Il y a quelques années, quand on venait au Québec deux fois par année, dans le temps de Noël et à l'été, pour voir la famille, tout ça. Donc, on partait de l'Alberta et on venait. Et on passait habituellement peut-être deux fins de semaine au Québec. Et puis, ça donnait un samedi matin. Je pense que c'est un samedi, mais sinon, ça ne change rien dans l'histoire. Mais un matin, OK, ma femme se réveille. On dormait chez mes parents, on était en visite. Et elle se réveille avec comme des couteaux dans l'estomac. Mais ça lui faisait mal, puis c'était vraiment douloureux. Puis là, ma femme, en se réveillant en pleine douleur comme ça, elle dit, mais c'est pas vrai que je vais me faire voler ma fin de semaine. Pensez-y, on est parti en Alberta 6 mois. On a juste 2 fins de semaine à voir de la famille, voir des amis, tout ça. Puis là, elle va être prise dans le lit, couchée dans son dos avec des malaises comme ça. Des maux, tout ça. Sauf que là, ma femme, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, non, je me ferai pas voler. Elle avait mal, là. Elle n'y est pas qu'elle avait mal. Elle avait besoin d'une touche de Dieu. Elle dit, va me chercher des DVD d'enseignement. Puis dans la fin de ces DVD-là, il y avait des prières de guérison. Elle dit, c'est pas vrai que je me ferai pas voler. Donc, je suis allé chercher les DVD. J'ai mis le DVD juste à la place de la prière vers la fin pour qu'elle reçoive la prière. Au début, elle reçoit comme ça. J'ai mis le deuxième DVD. Elle écoute l'autre prière pour la guérison. La troisième prière, là, l'enseignante, elle disait, OK, maintenant, elle dit, levez-vous à votre place et faites ce que vous ne pouviez pas faire avant. Là, Mathilde, elle sort du lit et puis est encore courbée, elle a mal. Mais là, elle venait de dire, faites ce que vous ne pouviez pas faire avant. Puis là, elle se met à se pencher comme ça puis remercier le Seigneur pour sa guérison. Et là, en faisant ça, toute l'affaire est partie au nom de Jésus. Là, elle dit, bon, là, je suis guéri, puis là, on peut avoir une belle journée. Mais savez-vous, ça a pris une décision que Mathilde, c'était la police, puis elle dit au diable, non, tu m'auras pas, par ces meurtrissures, j'ai été guéri, puis tu vas te tasser de ma vie, tu vas pas venir ruiner ma fin de semaine. C'est simple d'esprit. Oui, je suis simple à ce point-là. Je crois à Dieu, mais c'est vrai. S'il le dit, moi, j'y crois. Puis s'il le dit, puis je peux pas en bénéficier, mais qu'est-ce que ça donne? Mais c'est des beaux textes. Mais ça change quoi que ce soit juste des beaux textes? Faut le vivre. Faut être rendu assez écœuré de vivre une religion qui ne marche pas, qu'on est prêt à faire des changements. Si votre église évangélique ne fonctionne pas dans vos vies, là, ben, pas de changement. Ça marche pas, faut faire des changements. Non, mais c'est vrai. Je comprends pas des gens. J'ai eu des gens, des fois, des commentaires, c'est comme, ben, je peux pas aller dans cette église-là parce que je suis malade puis ils vont me dire d'être guéri. Ou je suis comme vraiment pauvre, j'ai besoin d'une Je suis vraiment pauvre, mais là-bas, ils vont dire que Dieu peut entreprendre pour mes besoins. Hey, c'est vrai. Tiens-toi loin de ces gens-là. Hein? D'un coup, si ta vie changerait. Hein? D'un coup, si ta vie changeait, là, tout d'un coup, ça serait terrible. Hein? Non, reste donc pauvre. Reste malade. Mais Dieu veut qu'on soit malade. Ben oui, pourquoi à ce moment-là, pourquoi tu prends une aspirine? Si Dieu veut que tu sois malade, vis-la ta souffrance. Non, mais c'est vrai. T'es qui, toi, pour aller à l'encontre de la volonté de Dieu? Si Dieu veut que tu sois malade, vis-la au bout de ta souffrance. Éternue, Hawaï, mouche-toi, vis-la ta souffrance. Mais voyez-vous comment ça fait pas de sens, les affaires? C'est qu'on est tellement ancré dans des traditions inventées qui ne sont pas dans la parole de Dieu, qui sont en dehors de la parole de Dieu. Puis on se fait voler carrément tout ce que Dieu nous donne en héritage. Il dit, voici, je vous donne ça en héritage. Puis nous autres, à cause, on a cru des mensonges. On a passé à côté de l'autorité que Dieu nous donnait. Mais savez-vous, on peut dire, hey, c'est assez diable, va-t'en de chez nous. Moi, là, dans ma famille, ça va être de la santé divine. C'est ça que je reçois. C'est ça que c'est écrit dans la parole. C'est ça que je vais croire. Amen. Donc, c'est ça qu'on a besoin d'être renouvelé dans nos pensées à ce niveau-là. Donc, ma femme a eu une belle fin de semaine. On a eu du bon temps. Puis, il n'y a pas personne qui nous posait la question, comment va Mathilde? Est-ce qu'elle est malade? Personne ne pouvait le savoir parce qu'elle avait reçu la part de Dieu. Moi, il y a un autre temps, je sentais comme des symptômes. Savez-vous, même si on est un enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que l'ennemi ne viendra pas essayer de nous attaquer. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? On a des symptômes qui viennent. Puis là, je commence à avoir une grippe. Je rentre dans une bulle de microbes. Ah, je vais aller mettre en pyjama là. Là, je m'en vais, je me couche dans mon lit. OK, les symptômes, allez, c'est le party, allez-y. Non, mais c'est vrai. Mais savez-vous, qu'est-ce qu'on peut faire? On file pas bien. Ben là, que j'ai fait, moi, j'ai pris un CD de guérison divine, juste des CD, parce que la parole de Dieu nous dit, OK, dans Proverbes 4, 20 à 23, ça nous dit que la parole de Dieu est la vie pour tout notre corps. Alors, j'étais couché là, j'ai écouté. Puis j'ai dit, merci Seigneur Dieu, je reçois ta guérison. C'est juste comme une grippe qui s'en venait, quelque chose comme ça. Et littéralement, j'ai ressenti la présence de Dieu venir sur moi et la faire partir. Je me suis dit, Ah, là, je me sens pas mal mieux. Amen. Mais savez-vous, j'ai rencontré quelqu'un récemment. Je dis, bonjour, ça va bien? Il me dit, tu veux t'entendre la vérité? Là, j'ai pendant 30 secondes. C'est un chrétien, là. OK, un chrétien. Là, je me suis dit, OK, ben moi, la vérité, ça serait la parole de Dieu, la vérité. J'ai dit, oui, je vais entendre la vérité, toujours. Toujours, je vais entendre la vérité. Super malade. Non, ça, c'est pas la vérité. Ça, c'est ta réalité. Mais ta réalité peut changer par la vérité de la parole de Dieu. Mais voyez-vous, on se voit tellement comme on est les victimes, puis le diable, il peut faire qu'est-ce qu'il veut avec nous. On n'a rien à dire. On est tapis couché à terre. Puis, ah ouais, il fallait ton party. Mais si on réalise, on a l'autorité. On met des limites à l'ennemi. On dit, toi, là, moi, j'ai un héritage. Je fais partie d'une nouvelle classe. Et cette classe-là, c'est les enfants de Dieu. J'ai été racheté à un grand prix. Puis c'est vrai, par ces meurtres, j'ai été guéri il y a 2000 ans. Et j'ai l'enseignement sur la guérison divine, l'école de la guérison divine. Vous pourrez écouter, je pense, c'est 4 ou 5 dimanches où on a passé tous les versets que les gens vont vous donner pour vous dire comment Dieu ne peut pas vous guérir. Parce qu'il y a des spécialistes là-dedans. Ils vont tous vous dire comment vous ne pouvez pas recevoir votre héritage. Parce qu'il y a des gens spécialisés là-dedans. Mais on peut se spécialiser aussi et connaître l'héritage du croyant. Parce que c'est pour nous. Donc, on veut être des gens de foi. Et en même temps, on doit apprendre. Si on a de l'autorité, on doit comprendre que notre autorité est relâchée par des paroles de foi. Quand Dieu a créé l'univers, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Il a décrété et cette chose-là s'est produite. Pareillement, Dieu nous donne de l'autorité. Et il nous dit quand parler et quand ne pas parler. Dans 2 Corinthiens 4, verset 13, ici, ça va changer vos vies. Si vous commencez à mettre en pratique, vous faites assis là, puis comme j'ai dit tantôt, faire le festival du roulage des yeux, ça changera rien pour vous. Vous faites juste écouter, puis être un auditeur, puis un auditeur évaluateur. Mais ça change rien, je vous le garantis. Mais si vous dites, OK, moi là, ma vie là, je fais en sorte que le Seigneur Jésus est vraiment le Seigneur de ma vie, ça va changer ma vie à partir d'aujourd'hui. Puis ça va, par la suite, vraiment faire, vous allez voir la réalité de ce que je vous dis ici. Dans 2 Corinthiens 4, verset 13, l'apôtre Paul dit, « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » Voyez-vous, quand on parle, là, on devrait parler des paroles de foi. « J'ai cru, c'est pour ça que j'ai parlé. » C'est l'inverse souvent dans nos églises. On ne croit pas, c'est pour ça qu'on parle. On ne croit rien, c'est pour ça qu'on parle. On s'entend parler, on s'entend chigner, puis il y a ci, puis ça, puis... Mais moi, qu'est-ce qui me bénit, là? Ça dit, et comme nous avons le même esprit de foi, on a besoin d'être entouré avec des gens qui ont un esprit de foi en dedans d'eux. Il y a des gens, c'est un esprit de doute. Tout ce que vous entendez de leur bouche, c'est tout le temps comment Dieu ne peut pas faire ci, puis comment ça va aller de pire en pire dans vos vies. Il y a des esprits de doute, mais qu'est-ce qu'on veut? C'est être entouré avec des gens avec un esprit de foi, comme l'apôtre Paul il dit. Comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Vous savez, des fois, on entend des messages, et moi, je me souviens, j'entendais des messages prêchés. Il y avait un prédicateur, il disait, « Semblerait-il que peut-être Dieu veut ci. Semblerait-il peut-être Dieu veut cela. Semblerait-il, je suis pas sûr, là, mais certains théologiens disent ça, certains théologiens disent ça, certains théologiens disent ça. » Et là, on sort de l'église, puis on dit, « Ouf! » Certains théologiens disent plein d'affaires, puis je sais pas quoi croire, parce que... C'est vraiment mélangeant. Mais Dieu nous dit comment parler. Dans 1 Pierre 4, 11, c'est dit, si quelqu'un parle. Ici, c'est le mot dans le grec, laleo, qui veut dire enseigner. Si quelqu'un enseigne, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Comme annonçant les oracles de Dieu. Quand Dieu parle, il dit pas, ben certains théologiens pensent comme ça, peut-être d'autres comme ça. Finalement, on sait rien, on sait pas qu'est-ce qu'on croit. Mais c'est ça, je vous expose à toutes ces affaires-là, puis vous essayez de découvrir c'est quoi l'affaire là-dedans. Voyez-vous, Dieu, là, qu'est-ce qu'il veut? Si on parle, si on est des personnes de foi, qu'est-ce qui sort de nos bouches? C'est la parole de Dieu. On annonce les oracles de Dieu, on n'annonce pas des raisonnements de plein de personnes. On s'en foutu qu'est-ce que monsieur un tel a dit. Qu'est-ce qu'on veut savoir? C'est ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, c'est ça qui change nos vies. Quand vous allez comparaître devant Dieu, là, et puis là, vous allez réaliser peut-être, hey, j'ai plein de choses que j'ai perdu ou que j'ai empêché le Seigneur de faire dans ma vie parce que monsieur un tel a dit ci, monsieur un tel a dit ça. Ça serait triste, hein? On est tous bien de croire Dieu parce que c'est vraiment la meilleure autorité. Amen. C'est le pourquoi nous parlons. Comprenons aussi la différence entre la récitation de versets et le décret d'une révélation de foi. Il y a des gens qui disent, ben moi là, j'ai pris la parole de Dieu, j'ai dit les paroles, ça n'a rien fait dans ma vie. Peut-être qu'il y en a parmi vous, vous êtes là, vous dites, j'en ai appris, j'ai mémorisé des versets, j'ai commencé à les dire dans ma maison. J'ai fait ça 2 semaines de temps, puis j'ai pas sorti de dette, j'ai pas été guéri, j'ai pas vécu ci, j'ai pas vécu ça. Et puis là, ça vaut rien, cette affaire-là. Ah, ben c'est un bon critère d'évaluation, ça. Je vais vous inviter à tourner dans le psaume 50, versets 16 à 18. Savez-vous, Dieu a une réponse à ça aussi. Dieu est tellement bon. Il ne nous laisse jamais le contredire. S'il dit une chose, savez-vous, il a raison. Moi, quand il y a des gens qui sont découragés, puis ils disent, ben, pourquoi Dieu permet ci, pourquoi Dieu me permet ça? Puis, Dieu n'a pas fait ci, Dieu n'a pas fait ça. Je peux vous dire, Dieu a toujours raison. Apprenez cette leçon-là. Si vous ne comprenez pas pourquoi telle chose arrive, dites-vous dans votre tête, Dieu a toujours raison. S'il y a quelqu'un dans le tort, c'est pas Dieu, c'est moi. OK? S'il y a quelqu'un dans le tort, c'est jamais Dieu. Dieu est toujours innocent. Il fait jamais de faute. Donc, des fois, ça se peut que ce soit nous. Donc, dans le psaume 50, verset 16, c'est dit, « Et Dieu dit aux méchants, quoi donc tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche? » Au verset 18, « Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. » La part des adultères, ça, c'est pas une bonne chose, n'est-ce pas? Mais pourtant, la personne a l'alliance dans sa bouche, elle donne des versets, elle dit des choses, mais c'est pas descendu dans le cœur. Ça n'a pas changé. Donc, qu'est-ce qu'on veut ici? On veut vraiment, non seulement juste avoir la parole de Dieu dans notre bouche, mais il faut que ça descende dans notre cœur. Amen. Donc, il faut que ça descende dans notre cœur. Et qu'est-ce qui se passe dans Jean 6, 63? Ça dit, dans Jean 6, 63, ça dit, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Les paroles de Dieu, il nous a donné l'autorité de se servir de ses paroles. Puis il dit, « Les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. » Vie, là, dans ce mot-là, c'est le mot « zoé » dans le grec, et ça veut dire « la vie de Dieu ». Donc, quand on commence à prendre les paroles de Dieu, on les médite, ils descendent dans notre cœur et on commence à les décréter par la foi, par révélation, pas par tradition, pas par essai, voir si ça va marcher, mais par révélation parce qu'on est une personne de foi convaincue que c'est vrai. On commence à le dire et là, la vie de Dieu est relâchée dans cette chose-là. C'est pour ça, des fois, quand il y a des malades, on n'a pas nécessairement même besoin de prier et dire « Je prie, Seigneur, fais ci, fais ça ». On peut juste mettre notre main et dire « Je relâche la vie de Dieu ». Au nom de Jésus. Et la personne est guérie. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu qui est en moi, et elle coule à travers moi et la personne est guérie. J'ai la vie de Dieu, j'ai l'autorité de décréter la vie de Dieu sur cette personne-là. Oh, mais j'ai jamais entendu ça avant. Oui, et peut-être ta vie a besoin de changer aussi. Ça se peut-tu? Des fois, on a de la misère à entendre des choses nouvelles, mais que Dieu nous délivre de la religion au nom de Jésus. Si ça marche pas dans votre vie, ben c'est à vous de changer, c'est pas à Dieu. Amen. Donc, une bouche religieuse, ça donne pas grand-chose. Mais une bouche qui est remplie de la parole de Dieu, ça, ça change des choses. Regardez dans Romains 10, verset 9. Romains 10, verset 9 à 10. Il est écrit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Comme j'ai dit tantôt, le salut, c'est plus que d'être pardonné nos péchés. Le salut nous parle de l'héritage du croyant. Vous pourrez lire dans le psaume 103. L'héritage du croyant, c'est d'être délivré de toutes les œuvres de Satan. La Bible nous dit que la clé, c'est en confessant de la bouche que vous allez parvenir au salut. En confessant de la bouche. Si vous confessez toujours votre réalité, vous allez vivre dans votre réalité. Si vous confessez la vérité de la parole de Dieu, la réalité dans le naturel doit changer parce que le spirituel est supérieur au naturel. Nous, on est gouvernés trop souvent par le naturel et on se laisse influencer par le naturel, pensant que le naturel est plus puissant que le spirituel. Mais on a besoin de la révélation que si Dieu l'a dit, ces paroles de Dieu qui sont dans ma bouche sont des contenants de la puissance de Dieu pour changer ma vie. Amen. C'est ce que Dieu nous dit. C'est une clé. Le Proverbe 4, verset 20 à 23, vous pourrez lire à la maison, nous parlant justement au niveau de la guérison divine, l'impact de la parole. Il y avait une femme que j'ai connue, elle était dans une maladie, la fibrose kystique, je pense. Elle était tellement malade, mais elle voulait se rendre à l'église parce qu'elle savait que c'était là qu'elle était pour recevoir sa guérison. Elle arrivait à l'église et puis elle ne pouvait même pas s'asseoir tellement qu'elle était malade. Donc, elle était couchée sur les bancs à l'église. Et puis, juste le fait d'entendre la parole de Dieu, à la maison aussi, elle écoutait des CD de guérison divine. Finalement, elle était même rendue aveugle, mais elle croyait, elle dit « Seigneur, je reçois ». Et là, à force d'être exposée à la parole de Dieu, comme c'est écrit dans Proverbes 4, 20 à 23, là, elle a été guérie. Les symptômes ont disparu. Elle a été totalement restaurée. Dieu a changé sa vie. Et elle et son mari sont devenus des prédicateurs. Et là, ils prêchent. Ils ont un grand ministère. Mais ça l'a pris un peu de violence. Des gens de foi. Des gens de foi qui vont pas se laisser gouverner par le naturel. Ils vont dire, moi, je vais m'attacher aux promesses de Dieu. Je vais y croire jusqu'à temps que ça se réalise dans ma vie. La garantie de sa parole. Dans Ésaïe 55, verset 11. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Voyez-vous, Dieu le dit lui-même. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Je vais relire. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Vous vous dites, oui, mais comment est-ce qu'on peut connaître la volonté de Dieu? Savez-vous, si vous voulez exercer l'autorité de Dieu dans vos vies et dans votre environnement, tout ça, vous avez le devoir de connaître la volonté de Dieu. C'est votre responsabilité de découvrir ce que votre patron veut dans votre vie. Si vous allez travailler, j'imagine, vous demandez à votre patron qu'est-ce qu'il veut, n'est-ce pas? Et dans le monde spirituel, c'est la même chose. On doit connaître le livre, connaître ce que Dieu dit concernant les sujets de nos vies. Et ça ne tombera pas sur la tête. Ça va prendre l'effort de méditer sur la parole de Dieu, rechercher la parole de Dieu pour connaître son avis sur tous les domaines de nos vies. Donc ici, ça va exécuter sa volonté, mais il faut décréter sa volonté et ça va arriver. Pourquoi? Parce que dans le psaume 138 et le verset 2, ça c'est merveilleux. Le psaume 138, verset 2, en parlant de Dieu, il est écrit « Tu as magnifié ta parole au-delà de ton renom. » Dieu, il place sa parole élevée au-dessus de son nom. Pourquoi? Elle est magnifiée. Parce que Dieu se soumet à sa propre parole. Dieu ne contredira jamais sa parole. Donc, si c'est écrit, il a magnifié sa parole au-dessus de son renom, c'est que sa réputation est basée là-dessus, sur sa parole. Comprenez-vous? Donc, si vous prenez la parole de Dieu et vous dites, « Seigneur, tu as dit, Dieu va le faire selon sa volonté parfaite, comme c'est écrit dans la parole. » Dans Ésaïe 43, verset 26, l'autorité est exercée comme ceci, là. C'est écrit « Réveille ma mémoire. » Ésaïe 43, verset 26, « Réveille ma mémoire. » Seigneur, tu as dit telle chose pour mes enfants. Tu as dit telle chose pour mon corps. Tu as dit telle chose. Et Dieu aime ça, qu'on lui rappelle qu'est-ce qu'il a promis. Et dans Jean 15, verset 7, c'est dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. » Et cela vous sera accordé. Si vous dites, c'est pas une réalité dans ma vie, mais une des choses qu'on doit faire, si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, c'est là la clé, que ces paroles demeurent en nous. Ces paroles demeurent en nous. Vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais pourquoi? C'est parce que c'est la parole de Dieu qui va sortir de notre bouche et ça s'adonne que sa parole et Dieu sont en accord. Donc, c'est sûr que ça va se produire. Comprenez-vous ce matin? Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Remarquez, mais ça, c'est extrémiste. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Mais moi, j'ai prié, ça ne s'est pas produit. Ça ne doit pas être la volonté de Dieu. Mais comment ça, tu pries des choses qui ne sont pas selon sa volonté? Priez donc quelque chose que vous savez, c'est sa volonté. Prenez une promesse. Seigneur, tu l'as dit. Seigneur, c'est ta volonté, j'y crois. C'est pas la présomption, c'est de croire la parole, la promesse qui est là pour vous. Là, vous priez, vous dites, Seigneur, t'as dit telle chose, je la demande avec foi, je m'attends de recevoir, parce que dans Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voyez-vous, quand on prie la parole de Dieu, on prie la volonté parfaite de Dieu. Donc, Dieu, lui, il se réjouit parce que ça s'adonne que Dieu veut exaucer nos prières. Des fois, on a l'attitude ou la pensée que Dieu, là, c'est comme notre Père Céleste au ciel, mais il a les bras croisés, puis il s'attend qu'on va le supplier, puis on veut vraiment comme ça, s'il te plaît, pitié, fais quelque chose. Non, notre Père Céleste, c'est un Père rempli d'amour. C'est un Père qui veut répondre aux besoins de ses enfants. C'est le cœur de Dieu pour vous aujourd'hui, ce matin. Le cœur du Père, il veut avoir cette communion avec vous dans la prière. Il veut répondre et il vous dit comment il va répondre. Et c'est super facile. Dieu, voyez-vous, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'autorité. Il avait délégué de l'autorité à Adam. Il a respecté ça. Adam a donné l'autorité à Satan. Il a respecté ça. Et il a dû même, Dieu, se soumettre lui-même à ses propres lois. Donc, il s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ pour payer le prix parce que Dieu suit toujours l'ordre. Pareillement, Dieu va suivre l'ordre de la parole. S'il dit comment prier, il va suivre cet ordre-là. Puis vous dites, ouais, mais j'ai crié, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai pleuré. Savez-vous, Dieu il répond avec ordre. Il répond selon sa parole. Amen. C'est rien de trop compliqué. Dieu répond avec ordre. Et dans le psaume 103, je vais vous inviter à tourner là. Le psaume 103 est au verset 20. Je vais vous donner un petit peu de pratique dans ma vie personnelle, comment j'ai vécu ça. Le psaume 103 et le verset 20, il est écrit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. » Remarquez, je vais le relire ici. Le psaume 103, verset 20. « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. » Même les anges sont soumis à la parole de Dieu et ils doivent obéir quand Dieu parle. Vous êtes d'accord avec ça ce matin? Amen. Mais il y a une nouvelle dimension, pas nouvelle, une autre dimension peut-être qu'on ne connaît pas vraiment beaucoup ici au Québec. Mais quand on ne parle pas en accord avec Dieu, les anges que Dieu a envoyés pour nous protéger, ok, on a tous des anges, c'est biblique, mais ces anges-là sont empêchés d'opérer dans nos vies. C'est super important de comprendre ça. Vous allez voir, admettons, on a prié pour une personne. On a prié pour une personne dans notre famille, qu'on veut que cette personne-là soit sauvée. On a prié, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit sur cette personne-là. Viens la convaincre de péché, de justice. Viens toucher cette personne-là. Donc, on prie, on relâche des paroles de foi pendant un moment. Ça, c'est merveilleux. Dieu peut vraiment envoyer son esprit et Dieu peut même envoyer ses anges pour dispatcher des choses, protéger la personne, pour que la personne entende au bon moment. Dieu peut s'organiser avec les détails pour rejoindre cette personne-là. Amen. On vient de faire la volonté de Dieu. Mais là, après, tout d'un coup, on peut commencer à parler de cette personne-là dans le naturel et dire, « Ah, cette personne-là est assez égoïste. Elle viendra bien jamais au Seigneur. Regarde comment elle est. Regarde comment elle traite ses enfants. » Et là, on parle dans le naturel. Et là, tout le travail qu'on a fait dans la dimension spirituelle, là, les anges sont là et disent, « Je ne peux plus rien faire. » Et tout en train de lier mes gestes, mes paroles, par des paroles de malédiction qu'on est en train d'envoyer sur la personne. Comprenez-vous ça? C'est super important. Moi, j'ai déjà expliqué ça, mais pour les nouvelles personnes, je peux vous dire, j'étais dans une conférence à Montréal. J'habitais à ce moment-là en Alberta, mais je m'emmenais à Montréal pour une conférence. Et dans ma chambre d'hôtel, vous savez, il y a toutes sortes de choses qui se passent là, et c'est pas toujours béni. Alors moi, en arrivant dans cette chambre d'hôtel-là, j'ai dit une simple prière. J'ai dit, Seigneur, je prie vraiment que cette place devienne ta demeure. Je veux vraiment comme dormir bien et tout ça. Je pense que c'est mon héritage, c'est écrit. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Donc, c'est une promesse de Dieu. Moi, j'ai le droit de bien dormir chaque soir de ma vie. C'est mon héritage. Même quand je suis à l'hôtel. Okay? Donc, j'arrive à l'hôtel, je bénis ma chambre et en me couchant, j'ai fermé les lumières. Il faisait noir, hein, absolument, quand on ferme les lumières. J'étais couché puis j'ai dit, « Oh, merci Seigneur Dieu pour ta présence aujourd'hui. Je te remercie Jésus parce que tu m'as protégé. Et je veux te remercier parce que Seigneur, je sais que tu as envoyé des anges pour me protéger. » Et le moment que j'ai dit, « Merci Seigneur pour tes anges », j'ai vu deux ombres noires quitter la chambre d'hôtel. C'était vraiment particulier. J'ai vu comme, « mais sortir comme ça. » Puis j'avais jamais vu une chose semblable. Là. C'était deux comme nuages noirs, mais plus noirs que la noirceur dans laquelle j'étais. C'était vraiment... Aïe, aïe, au début, j'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? Mais par la suite, j'ai compris. Le moment que j'ai remercié le Seigneur, je parle pas aux anges en passant, je parle à Dieu. Je parle à Dieu et je remercie le Seigneur. J'ai remercié tout simplement, merci Seigneur pour tes anges qui m'ont protégé. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges qui étaient avec moi ont forcé les mauvais esprits qui étaient dans la salle, dans la chambre, ils les ont forcés à partir pour que je puisse bien dormir. Parce que Dieu est préoccupé par mon sommeil. Parce que je suis un chouchou du bon Dieu. C'est vrai. Ça vous dérange-tu, ça? Sérieusement, savez-vous, le problème que j'ai un autre problème, je vais me défouler. Est-ce que je peux me défouler ce matin? J'ai un problème avec des chrétiens qui ne croient pas dans le surnaturel. J'ai un problème sérieux. Si vous ne croyez pas dans ce que je viens de vous dire, là, ben ça se peut pas que des anges envoient des démons. Relisez votre Bible ou soyez sauvés au nom de Jésus. C'est vrai. Savez-vous, des chrétiens qui ne croient pas dans le surnaturel, vous faites une mauvaise publicité pour le corps de Christ. Les gens de l'extérieur qui se tournent vers Jojo Savard et qui en vivent des choses surnaturelles, ils arrivent dans nos églises puis on croit plus, on nous tourne, on croit pas là-dedans. Eux, ils croient dans le surnaturel. Ils ont touché aux choses, aux médiums, aux affaires sales de l'ennemi. Nous autres, les croyants, on est supposés croire dans le surnaturel parce que notre Dieu est surnaturel. Si vous ne croyez pas dans le Dieu surnaturel, vous ne croyez pas dans le Dieu de la Bible. C'est vrai. Vous pouvez lire, ben oui, il a ouvert la mer, il a fait ci, puis il a fait ça dans le passé. Mais il fait encore des choses aujourd'hui parce que Dieu n'a pas pris sa retraite. Dieu est toujours vivant. Si votre Dieu n'est pas le Dieu surnaturel de la Bible, vous avez un autre Jésus. Galates 1:8. C'est pas drôle, ça. Vous avez un autre Jésus. C'est le temps qu'on revienne au Dieu de la Bible, qu'on revienne à ce Dieu surnaturel. Et quand on croit dans ce Dieu surnaturel-là, on se positionne pour être ses représentants, pour décréter ce que Dieu dit, pas décréter qu'est-ce qu'on voit dans le naturel. Ça prend des fois un petit peu d'humilité, parce que là, les gens vont dire, « Mais comment ça tu dis des affaires comme ça? » Ben parce que je choisis de croire Dieu. Admettons, j'ai un symptôme qui vient sur moi. Au lieu de dire à tout le monde, « Ben, je vais avoir la grippe, je vais y passer comme le reste. » là. Non, je peux juste dire, « Ben, je suis en train de croire Dieu pour une guérison. Je reçois par la foi ma guérison. » Ça ne veut pas dire qu'on fait une négation. On nie pas qu'on a un combat. J'ai besoin de prière. Priez pour moi, là. Je veux vraiment qu'on combatte cette chose-là ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on nie là qu'on a des problèmes. Non, on a des choses, des choses contraires, mais on se positionne dans la foi et dans l'attente, l'expectative que mon Dieu est plus grand que la grippe. Le Dieu que je sers est plus grand que H1N1. Mon Dieu que je sers est plus grand que n'importe quelle chose. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Amen. On a besoin d'une révolution dans nos églises. Amen. Et je vais arrêter là. Savez-vous, je vais arrêter là parce que j'ai encore deux autres pages et je vais pas vous épuiser. Amen. Et là, tout le monde s'en vient en courant de peur que je change d'idée. Hey, je vais juste vous lire un autre texte, OK? Juste un autre. Après, je finis, OK? Ça sera pas 15 minutes, OK? Il faut que je vous lise ça. Romains 4, verset 18 à 21. Il me reste encore 3 minutes. Ça va être 3 vraies minutes, OK? Écoutez bien comment Abraham, le père de la foi, comment lui, il marchait dans la foi. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Verset 19. Vous savez là que Abraham c'était un homme âgé, là, qui était très vieux, et puis Dieu lui avait donné la promesse qu'il serait le père d'une multitude. C'était dur à croire, mais il croyait. Parce que, au verset 19, « Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps, dans le naturel, était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » Verset 20, « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Voyez-vous la clé de donner gloire à Dieu? Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Si Dieu le promet, il peut l'accomplir. C'est pas à vous de vous inquiéter comment il va faire ça. La clé, moi, qu'est-ce que j'aime, qui me fait triper, il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Voyez-vous, il y a quelque chose qui est sorti de sa bouche. Il a donné gloire à Dieu. Merci Seigneur Dieu, parce que je vais être le père d'une multitude. Et il y avait 100 ans. Il donnait gloire à Dieu quand même. Le monde aurait dû dire, ben, il est tombé sa tête, avoir des enfants à son âge. Ben, peut-être selon le monde, il avait tombé sur la tête, mais selon Dieu, il n'y a plus à Dieu et Dieu l'a attribué comme justice. Amen. Une minute. OK, dernier verset. OK, après ça, je finis. Il y en a juste un autre. Ça, c'est vraiment bon. Faut voir comment la foi a été exercée. Le centenier. Matthieu 8, verset 5 à 10. Après ça, on va louer le Seigneur ensemble et vous avez des personnes de foi, vous allez relâcher votre foi pour des percées que vous avez besoin aujourd'hui. Amen. Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier l'aborda. C'est dans Matthieu 8, 5 à 10 en passant, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de la paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Ah, c'est merveilleux. Jésus n'a pas dit, « Bon, ben, je travaille dans sa vie, il faut qu'il passe par là. Une fois, après 3 mois de ça, je vais peut-être le guérir, s'il l'a mérité. » Non, c'est pas ça qu'il a dit du tout. Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Verset 8. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. » et mon serviteur sera guéri. Voyez-vous ici, il comprenait comment ça marchait, là. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, même parmi les Juifs, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Pourquoi? Parce qu'il avait compris le principe de l'autorité déléguée. Il avait compris comment ça fonctionnait. Et nous, on est juste dans notre deuxième prédication sur l'autorité du croyant, mais je crois qu'on est en train de déraciner les choses qui ont été là pendant longtemps. Et vous réalisez aujourd'hui que Dieu, qui est souverain, a délégué de l'autorité à son Église. Et maintenant, c'est à nous, l'Église, de reprendre le territoire qui nous a été volé. C'est à nous d'être violents en esprit et être les policiers que Dieu nous appelle à être, et d'empêcher l'ennemi de faire ses ravages dans nos églises, dans nos vies personnelles et dans le Québec. Parce que Dieu veut sauver la francophonie et on décrète sa volonté. On dit merci Seigneur parce que tu envoies des gens de la France pour venir nous aider, pour rejoindre la francophonie. Merci Seigneur Dieu parce que tu nous donnes des stratégies divines. Regardez les BD, un séminaire pour BD. Seigneur, tu vas sauver des gens, tu vas former des gens pour rejoindre d'autres gens. On va faire des choses différentes, on s'en fout, c'est différent, mais on veut répondre à Dieu et prendre l'autorité et marcher dans l'appel que Dieu a pour nous. Et c'est ça que Dieu veut pour vous ce matin. Dites-vous amen à ça? Gloire à Dieu. Je vais inviter l'équipe de la louange. Hey, c'est pas si pire. Gloire à Dieu. Et on va se lever, on va chanter, on va le louer. Et réjouissez-vous ce matin que l'ennemi est sous vos pieds. La tête, le Seigneur Jésus, il a tout racheté pour nous. Et l'ennemi est sous nos pieds. Nous ne sommes plus les victimes, nous sommes les victorieux. Au nom de Jésus, et on le loue, parce que nous sommes victorieux en lui. Amen. J'ai besoin de décréter des choses sous vos têtes. Est-ce que c'est correct? C'est la parole de Dieu, c'est pas rien d'autre que ça. Le psaume 145, verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes les œuvres. Avez-vous besoin de plus de bonté ce matin? Plus de sa bonté dans vos vies? Si vous êtes un candidat pour plus de la bonté de Dieu, levez les mains. Si vous êtes un candidat, juste ceux qui sont un candidat, si vous êtes trop religieux pour lever vos mains, gardez vos mains très bas et mettez vos mains en dessous de vos fesses et prenez votre place. Mais si vous êtes un chrétien, vous êtes un candidat et vous dites, Seigneur, moi je suis prêt à avoir plus de ta bonté dans ma vie, plus de la manifestation de ta bonté dans ma vie, levez vos mains. Et Seigneur Dieu, maintenant, je te remercie Seigneur pour ta parole, je te remercie Seigneur Dieu que tu te révèles chaque semaine Seigneur et tu magnifies ta parole dans la vie de mes frères et de mes sœurs et qu'ils reçoivent une manifestation cette semaine de ta bonté. Merci de Seigneur Dieu que tu leur révèles, tu leur accordes Seigneur cette révélation de l'autorité qu'ils ont Seigneur que tu as payé tellement cher pour qu'on puisse l'avoir. Merci de bénir mes frères et mes sœurs qui reçoivent par la foi. Oh merci Seigneur, tu délivres tout le monde. Merci de délivrer le Québec Seigneur du roulage de Dieu et de l'incrédulité. Merci Seigneur de nous remplir de foi Seigneur Dieu. Sois loué Seigneur Dieu. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia. Alors ce matin, on ouvre l'autel ici. Si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, venez voir notre sœur Annabelle ou pasteur Jérémy. Ils vont prier pour vous. Et peut-être si vous êtes déjà sauvé, mais vous avez besoin d'une touche dans votre vie, ils sont là aussi pour prier pour vous. Peu importe le besoin, on va relâcher l'autorité que le Seigneur nous a donnée. On va prier, on va maudire la chose qui est de l'ennemi dans vos vies et on va relâcher la bénédiction sur vous. Je termine avec un verset. Le psaume 50, verset 16, ça dit, « Dieu dit aux méchants, quoi donc? » Oh, pardon, c'est pas ça là. Le psaume 37, verset 30, 31. « La bouche du juste annonce la sagesse. » C'est la vérité de Dieu. « Et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas, ses pieds ne chancellent point. Il reste à l'abri des faux pas. » Ça, c'est le Dieu. Il reste à l'abri des faux pas. Peut-être que vous avez pris trop de faux pas dans votre vie, vous avez besoin de réapprendre des choses au nom de Jésus. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que le Seigneur est là pour vous enseigner, pour vous enseigner dans votre vie à tous les jours. Si vous avez besoin d'une touche de la part de Dieu aujourd'hui, on est là. On est là pour prier pour vous. L'autel est ouvert. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur Dieu, ce matin, je veux prier, Seigneur, pour chaque personne qui entend ce message. Oh Seigneur, je prie que ce message, cette semence, a pu tomber dans un bon terrain. Seigneur, je plaide le sang de Jésus sur la semence de ta parole. Merci, Seigneur Dieu, qu'il n'y a aucune chose de l'ennemi qui va venir voler cette semence. Merci Seigneur parce que tu nous as déjà donné la mesure de foi pour croire dans l'impossible. Oh, ce que l'homme dit est impossible. Toi Seigneur, tu dis c'est possible. Seigneur, je prie Seigneur, pour chaque personne. Je prie qu'on puisse voir un changement dans la vie des gens. Oh Seigneur Dieu, que ce ne soit pas comme d'une semaine à l'autre, toujours la même chose, Seigneur, mais qu'on puisse être changé par ta parole, être transformé par le renouvellement de notre intelligence en toi, parce qu'on a la pensée de Christ. On pense tellement différemment que le monde. On pense tellement différemment et on parle tellement différemment également. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu effectues le changement dans la vie de chaque personne. Merci, Seigneur, aussi de nous délivrer. De nous délivrer, Seigneur Dieu, des pensées de l'ennemi. Nous délivrer des pensées qui voudraient nous garder captifs dans le passé. Des pensées qui voudraient nous garder captifs dans la religion. Oh, mes Seigneurs, je décrète aujourd'hui, au nom de Jésus, sur tous ceux qui veulent être libres, sur tous ceux qui veulent être affranchis, je décrète aujourd'hui la délivrance au nom de Jésus. La délivrance au nom de Jésus. Ils pensent librement. Ils pensent librement. Ils reçoivent ta parole qui change leur vie. Alléluia. Ils sont équipés aussi pour le travail. Pour le travail à quel tu les appelles à faire. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je décrète aussi ton shalom sur chaque tête. Chaque personne dans cette église, Seigneur Dieu. Rien de manquant, rien de brisé. J'appelle la restauration dans la vie, dans les ménages, dans les couples. Au nom de Jésus, j'appelle la restauration. Au nom de Jésus. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.